Allemagne deux stades olympiques. Celui des Jeux de Berlin de 1936, qu'on appelle souvent les Jeux de la honte, parce qu'ils ont servi la propagande nazie. Et puis celui de Munich, construit pour les Jeux de 1972, une date tragique dans l'histoire olympique. L'Olympiastadion est construit pour accueillir les Jeux de 1972 aux côtés d'un lac artificiel et du village olympique. À l'époque, c'est un symbole de modernité. Pour permettre une transmission des images, il y a aussi cette tour de 290 mètres et son restaurant avec vue panoramique sur les Alpes. C'est également à Munich qu'est inaugurée la mascotte olympique, en l'occurrence un teckel, animal très populaire à Bavière. À l'ouverture des Jeux, il règne une sorte d'euphorie dans un pays en excellente santé économique. Une euphorie qui sera vite balayée par une effroyable tragédie. Nous sommes le 5 septembre 1972.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. À Munich, dans le village olympique, les otages israéliens détenus par 5 commandos palestiniens attendent toujours d'être fixés sur leur sort. Les Palestiniens menacent de les fusiller si 200 prisonniers politiques ne sont pas libérés en Israël.
Dans la nuit du 4 au 5 septembre, 8 terroristes palestiniens se sont introduits dans le village olympique. Ils ont pris en otage 9 athlètes israéliens après en avoir tué 2 qui tentaient de résister. Ils menacent alors d'en exécuter un toutes les heures si leurs revendications ne sont pas satisfaites. Durant toute la journée du 5 septembre 1972, d'âpres négociations ont lieu avec les terroristes qui demandent finalement de prendre un avion pour le Caire avec leurs otages. Les autorités allemandes en profitent pour monter un plan combinant policiers et tireurs d'élite afin de maîtriser les terroristes et de libérer les otages. Et voilà que dans la nuit, un porte-parole gouvernemental annonce aux médias le succès de l'opération. Présent à l'aéroport, le journaliste de l'AFP, Charles Bietri, est incrédule. Il a entendu les coups de feu et surtout une énorme explosion. Comment le gouvernement peut-il dire que tout va bien? Il va être le premier à annoncer que l'opération est en réalité un échec complet. Quand il le raconte 50 ans plus tard à nos confrères de Radio-Canada, il ne parvient toujours pas à contenir son émotion.
Arrive devant une petite porte quand elle s'ouvre et sort un monsieur, le visage sombre, avec des larmes qui coulent là.
Je viens.
Excusez-moi, j'ai toujours un peu de mal sur ce moment-là. Et donc, je vais à lui, il lui demande. Qui êtes-vous ? Et il répond, ce chronaviteur, le maire de Munich. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé ? Et il me répond, Zizina, Tote, ils sont tous morts, Viramelas, Verpas, on a tout raté.
L'événement va créer un émoi considérable. Israël répliquera par des raids aériens et une traque sans merci des terroristes. C'est l'objet du film Munich de Steven Spielberg. Quant à la police allemande, elle aura montré un tragique manque d'efficacité dans cette crise. Le bilan est terrible. 11 sportifs israéliens assassinés, un policier allemand décédé, ainsi que 5 des 8 terroristes. Dans ces circonstances, les Jeux doivent-ils continuer ? Oui, répond le président du Comité international olympique, l'américain Avery Brundage, qui après avoir organisé une cérémonie d'hommage aux victimes déclare « The Games must go on ». Mais évidemment, l'enthousiasme en a pris un coup. On l'a compris, les Jeux olympiques de Munich resteront étroitement associés à cette prise d'otage meurtrière. deux événements sportifs sont malgré tout entrés dans l'histoire. Avec d'abord l'incroyable performance du nageur américain Mark Spitz. Une performance qui a eu lieu avant la prise d'otage. Et comme il est d'origine juive, il sera ensuite exfiltré et rapatrié par le FBI. Dans la piscine olympique de Munich, Spitz aura participé à 7 épreuves en 7 jours et il les a toutes gagnées. 7 médailles d'or, seul son compatriote Michael Phelps fera mieux avec 8 médailles d'or à Pékin en 2008. Et l'autre temps fort de ces Jeux de Munich, c'est l'incroyable scénario de la finale de basketball entre les États-Unis et l'Union soviétique. Depuis que l'épreuve de basket figure au programme en 1936, le titre n'avait jamais échappé aux Américains. Mais ici, les Soviétiques mènent de 1 point. Quand à 3 secondes du coup de sifflet final, les USA obtiennent 2 lancers francs. Qu'ils marquent. Remise en jeu. En 3 secondes, pas de nouveau panier. Les États-Unis ont gagné sur le fil. Sauf que les Soviétiques réclament. Ils avaient demandé un temps mort entre les 2 lancers francs. Demande ignorée par l'arbitre. Les juges délibèrent et donnent finalement raison aux Soviétiques. On leur rend donc le ballon pour rejouer les 3 dernières secondes. Et l'incroyable se produit. Voilà qu'il marque. L'Union soviétique est médaille d'or malgré les récriminations des USA. Encore aujourd'hui, beaucoup d'Américains estiment qu'on leur a volé la victoire. À propos de victoire, les Belges en obtiennent-ils une à Munich? Après la médaille d'argent et la médaille de bronze de Mexico 4 ans plus tôt, a-t-on droit à une médaille d'or en 1972? Eh bien non, toujours pas. Il faut se contenter de 2 médailles d'argent. Mais elles sont obtenues dans des disciplines prestigieuses. Le 10 000 mètres, avec Emil Putmans, jardinier dans la vie civile. Et puis, le marathon, avec Carol Lismont. Lismont, qui sera encore présent aux Jeux suivants, ceux de Montréal, où le bilan belge sera meilleur.